Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, se réunit donc cette semaine à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
Oui, pour évoquer la situation sécuritaire au Mali où des djihadistes affiliés à l'État islamique au Grand Sahara se sont emparés la semaine dernière d'une ville importante du nord du Mali, Talataï, à 150 km de Gao. Il s'agira aussi et surtout en parallèle donc de cette Assemblée Générale des Nations Unies d'évoquer le mandat de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Un mandat qui a été renouvelé en juin, malgré les critiques au Mali de la junte au pouvoir, mais aussi de plus en plus de la société civile malienne. La MINUSMA a été créée en 2013. Sa mission aujourd'hui est à la fois d'appuyer la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 et de faciliter, je cite, la mise en œuvre d'une stratégie malienne globale pour protéger les civils et rétablir l'autorité et la présence de l'État. Bonjour Niagale Bagayoko.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network, qui est une organisation panafricaine qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité. Niagale Bagayoko, pour faire un point le plus actualisé possible sur les conditions dans lesquelles opère la MINUSMA aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle ?
Aujourd'hui, la MINUSMA est une opération de paix qui se trouve entravée à plusieurs égards dans la mise en œuvre du mandat dont vous venez de décrire les termes. Tout d'abord, en ce qui concerne ses possibilités de mouvement, à la fois au sol, mais aussi dans les airs, puisqu'elle doit respecter des conditions désormais très strictes, avec une zone d'exclusion aérienne qu'elle doit respecter en demandant des autorisations sous très bref préavis, mais elle est également contrainte par de nouvelles normes qui ont été instaurées par les autorités maliennes en matière de rotation des différents contingents et enfin et peut-être surtout dans ses capacités à mener des missions d'établissement des faits en ce qui concerne les abus et violations des droits de l'homme.
Parce que ça fait partie de ses attributions et aujourd'hui elle se dit empêchée d'enquêter sur ces allégations d'atteinte aux droits de l'homme dans le cadre de la lutte antiterroriste par le Mali. À sa création, il y avait 13 000 soldats, c'est toujours le cas ?
Les effectifs ont varié depuis presque 10 ans entre effectivement le chiffre que vous indiquez et 15 000 effectif dans lequel on inclut à la fois les effectifs militaires, mais aussi, il faut le rappeler, les effectifs policiers et les effectifs civils, dont relèvent notamment les agents chargés de mener les investigations en matière de droits de l'homme.
Donc vous le disiez, Niagale Bagayoko, les autorités maliennes entravent le travail de la MINUSMA en disant que c'est à elles, ces autorités, de mener cette lutte, et notamment avec les FAMA, les forces armées maliennes. Est-ce qu'aujourd'hui, elles mettent les moyens dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, autour des villes de Talataï, par exemple, ou de Ménaka, que visent ces groupes djihadistes, et la ville de Talataï a été prise la semaine dernière. Est-ce que les FAMA sont déployées et présentes ?
Alors, attention, si je puis me permettre de faire une petite précision, le mandat de la MINUSMA n'est absolument pas de lutter contre le terrorisme. Vous en avez rappelé les termes, c'est d'une part d'accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali qui ne concerne que les relations entre les autorités maliennes et les groupes indépendantistes Touareg et absolument pas les groupes djihadistes, ainsi que de procéder à la protection des civils et au rétablissement de l'État. Donc la MINUSMA, il faut vraiment y insister, n'a pas de mission antiterroriste. Bien entendu, il y a également des acteurs chargés de cette lutte antiterroriste. C'était le cas de la force française Barkhane jusqu'à son retrait, il y a environ un mois, durant le mois d'août. Et c'est le cas, bien sûr, des forces armées maliennes qui participent et ont fait de cette mission un objectif majeur, particulièrement depuis ce qu'ils appellent la montée en puissance qu'ils ont lancée, particulièrement dans le centre du Mali. L'incident gravissime auquel vous faites référence, qui s'est produit à Talataï, dans le nord du Mali, est une zone où ces FAMA, justement, sont beaucoup moins actives. Ce qui leur est reproché, notamment par les groupes armés Touareg, qui considèrent être les seuls aujourd'hui à essayer de contrer cette offensive de l'État islamique dans le Nord, qui jusqu'ici était davantage contrôlée par l'autre centrale djihadiste, elle-même affiliée à Al-Qaïda.
Un reproche donc d'absence qui lui est formulé aussi par son voisin le Niger, qui lui dit que le Mali n'a pas investi les postes militaires avancés près de sa frontière. En tout cas, c'est ce que disait le président nigérien Mohamed Bazoum en mai. Donc les conditions pour la réalisation du mandat de la MINUSMA paraissent fragiles. À cela, Niagale Bagayoko, s'ajoute la crise avec la Côte d'Ivoire qui sera traitée en priorité demain lors de la réunion de la CDAO à New York. En résumé, le Mali a fait arrêter et emprisonner cet été 49 soldats ivoiriens qui se trouvaient sur son territoire, vraisemblablement sans son autorisation. Il les accuse d'être des mercenaires et les a inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette crise? Le Mali est-il dans son droit quand il critique le déploiement de ces soldats ivoiriens? Ils n'étaient pas prévenus?
Alors c'est toute la difficulté de cette affaire qui est très grave et qui pourrait avoir des conséquences très préoccupantes à l'échelle sous-régionale cette fois-ci, hein, en raison de la dégradation avec la Côte d'Ivoire en effet. Ce qui s'est produit, c'est que à la faveur de cette arrestation de 49 militaires ivoiriens, on s'est aperçu que les procédures en vigueur prévues par la MINUSMA n'ont pas été respectées et que effectivement, le Mali est tout à fait légitime et dans son bon droit en dénonçant le fait qu'il n'y avait pas de statut légal pour ces effectifs ivoiriens qui étaient censés être déployés dans le cadre de ce qu'on appelle les National Support Elements, les éléments de soutien nationaux, mais qui en réalité ne semblent pas véritablement relever exactement de ce statut-là. Et les Nations Unies restent extrêmement flou, tout comme la Côte d'Ivoire qui a commencé par présenter des excuses, ou l'Allemagne qui est également concernée par ce déploiement en dehors d'un statut légal. Cela dit, l'accusation de mercenariat, d'atteinte à la sécurité de l'État est évidemment inacceptable, excessive, et met en balance la liberté de soldats ivoiriens qui n'ont rien à se reprocher, en tout cas en ce qui concerne les charges qui sont retenues par la justice malienne contre eux. Et on voit qu'aujourd'hui, les autorités maliennes cherchent à politiser cette affaire en exigeant que soient libérés des opposants maliens, des anciens ministres poursuivis pour détournement au Mali, qui sont actuellement sur le sol ivoirien, en échange de ces soldats, ce qui amène légitimement les autorités ivoiriennes à parler de prise en otage.
Et les autorités maliennes qui politisent cette affaire, dites-vous, quel intérêt politique y trouve-t-il le Mali sur le continent à maintenir en prison ces soldats ivoiriens? On sait que depuis longtemps, le Mali dit que la Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara sont la marionnette de la France.
Alors oui, c'est effectivement l'un des arguments de la rhétorique de très anti, très farouchement anti-française déployée par les autorités maliennes depuis quelques mois. Mais il faut se souvenir que Alassane Ouattara n'a pas besoin d'être la marionnette de la France, puisque lui-même a pris l'initiative d'être le premier opposant à la junte malienne. Ça a été l'un des chefs d'État qui a été le plus déterminé à faire voter des sanctions extrêmement sévères contre le Mali en raison du coup d'État et du non-retour à la légalité constitutionnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'Alassane Ouattara a des raisons pour cela. C'est-à-dire que lui-même a accédé au pouvoir dans des conditions très contestables en changeant la constitution de son pays pour pouvoir bénéficier d'un troisième mandat. Et lui-même se sentait fragilisé potentiellement par un risque de coup d'État également. Donc il avait, au-delà des intérêts de la France, lui-même des raisons très fortes pour s'opposer à la junte malienne, et il est certain aujourd'hui que les autorités en poste à Bamako lui font payer ce bras de fer qui les a opposés à lui pendant des mois jusqu'à la levée des sanctions il y a quelques mois.
Et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont compliquées depuis les années 2000, quand la rhétorique de l'ivoirité avait entraîné des violences contre les communautés maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Baptiste Muckensturm.
Oui, Niagale Bagayoko, quand le porte-parole du mouvement Yerewolo, le groupe patriote radical qui se réclame du panafricanisme, quand son porte-parole, donc Adam Diarra, demande à la MINUSMA de quitter le Mali avant ce jeudi, hein, le 22 septembre, le jour de la commémoration de l'indépendance, quel poids a-t-il sur l'opinion publique malienne et sur le cours des choses ?
Alors, il est certain que ce mouvement, hein, Yerewolo sur les remparts, dirigé par Diarra, dont le surnom est Ben le cerveau, a un impact très important sur les réseaux sociaux, indéniablement, et également sur l'opinion publique de la capitale, à Bamako. Il s'est montré capable d'organiser de très grandes manifestations de protestation contre la présence française, notamment, qui ont été couronnées de succès. Il faut savoir que le président de Yerewolo fait l'objet, hein, de sanctions de la part de l'Union européenne. Ça fait vraiment partie, hein, des individus activistes identifiés comme étant très hostiles à la présence internationale au Mali. Il est, il faut le souligner, également membre du Conseil national de transition qui fait office aujourd'hui d'assemblée, enfin de parlement, au Mali.
Et on sait qu'aujourd'hui, en septembre 2022, qu'est-ce qui est avéré ? Parce qu'il ne cesse de se porter en faux contre l'ingérence, toute forme d'ingérence étrangère. Qu'est-ce qui est aujourd'hui avéré sur ses relations avec la Russie ?
Alors, c'est Yerewolo sur les remparts, hein, est un groupe qui affiche de manière totalement transparente et déterminée sa proximité avec Moscou, qu'il considère comme étant officiellement le seul acteur capable de mettre un terme à la crise sécuritaire aujourd'hui. Il a affirmé de manière très sûre que les Russes pouvaient mettre fin au conflit en 6 mois. On s'aperçoit que, bien entendu, ça n'était pas le cas. On voit qu'il y a eu des attaques extrêmement préoccupantes, au-delà de celles que vous mentionniez à Talata. Il y a eu une attaque, une autre dans le nord, à Tessit. Et il y a eu surtout une attaque à 15 kilomètres de Bamako, à la base militaire de Kati, malgré la présence des Russes. Donc, en dépit de ces soutiens extrêmement forts, hein, comme Yerewolo, qui est sans doute financé par Moscou en partie, on voit très bien que les incantations ne suffisent pas à rendre plus efficace la présence russe que celle des autres partenaires internationaux. On est face à une situation qui démontre que les acteurs en présence ont une trop grande connaissance fine de l'environnement local pour que les solutions internationales puissent en triompher.
Et ce groupe Yerewolo a-t-il quelque influence au Niger ? Parce qu'on a vu ce week-end, hier dimanche, dans la capitale du Niger, de grandes manifestations anti-françaises contre Barkhane, qui a quitté le Mali, mais pas le Niger. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des ramifications dans le Sahel ?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse formuler les choses de cette façon-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une influence très forte sur les opinions publiques de ce mouvement patriotique qui se dit panafricaniste malien, qui infuse dans les opinions publiques des autres pays. Les organisations qui ont été mobilisées hier au Niger, hein, notamment le REPAD, dans le cadre du mouvement M62, ne sont pas, à mon sens ou à ma connaissance, proches de Moscou, mais elles sont à l'évidence très sensibles à la rhétorique développée par Yerewolo ou d'autres organisations. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi dans le contexte des incidents très graves, hein, c'est en soldé par 3 morts quand même, qui ont eu lieu à Terra, qui ont opposé l'armée française à des manifestants très violents en début d'année, que cette hostilité à la présence française a commencé à croître. Elle était déjà présente parce qu'il y a un grand scepticisme face à la capacité d'acteurs extérieurs à améliorer la situation au Niger. Mais là, effectivement, après Terra, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui s'est installé, dont les manifestants d'hier se veulent le fer de lance.
La France qui a beaucoup insisté pour le renouvellement donc au printemps du mandat de la MINUSMA, bien que beaucoup de ses partenaires se soient demandé pourquoi, sauf l'Allemagne ou d'autres qui ont aussi insisté pour que ce mandat ait à nouveau lieu. Merci beaucoup Niagale Bagayoko d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente d'une organisation panafricaine qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité et qui s'appelle l'African Security Sector Network. Merci beaucoup.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h40.
France Culture, l'esprit d'ouverture.